Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que reste-t-il de mai 58 ? Ne passez pas votre chemin, c'est bien de mai 58 dont nous allons parler ce soir, pas de mai 68. Le second n'a pas besoin qu'on y revienne tant il est commémoré. Le premier, en revanche, n'est que rarement évoqué en dépit de son 60e anniversaire. Mai 58 est pourtant une date importante de notre histoire politique. Crise de régime sur fond d'une guerre qui ne dit pas son nom, la guerre d'Algérie. C'est le moment où la République vacille avant de se rétablir sous la haute autorité d'un homme providentiel, le général de Gaulle. De ce moment d'extrême tension va naître la 5e République, laquelle a prouvé sa capacité à résister à l'usure du temps puisqu'elle nous gouverne encore. Tous les présidents qui s'y sont glissés ont d'ailleurs fini par y trouver leur compte. Pourtant, en dépit de ce rôle structurant de la vie politique, mai 58 peine à exister à côté de son rejeton de 68. Il y a 10 ans, l'historien Benjamin Stora proposait cette explication. On peut comprendre l'éclipse de mai 58 par le fait que la France, emportée dans les années 60 par la fièvre de consommation, a préféré oublier les drames de la décolonisation et a souhaité célébrer l'aspect festif de mai 68. Alors que reste-t-il de mai 58 ? C'est le thème de notre discussion ce soir, en compagnie de 3 invités. Anne Levade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Est Créteil. Vous présidez l'Association française de droit constitutionnel et vous présidez également la haute autorité du Parti Les Républicains.
Non, ça n'est plus aujourd'hui, c'est terminé. Mon mandat s'est achevé.
Pour discuter avec vous, Sabine Janssen, bonsoir. Vous êtes historienne, maître de conférence habilité à diriger des recherches au CNAM. Vous avez publié l'an dernier aux éditions du CERF les boîtes à idées de Marianne. Vous vous intéressiez au rôle des think tanks. Et puis vous venez de publier plus récemment les sautes d'humour du général de Gaulle aux éditions Payot. Et puis notre 3e invité se trouve en duplex des studios de France Bleu Touraine à Tours. Il s'agit de Gilles Richard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, non pas à l'université de Tours, mais à celle de Rennes 2. Et on vous doit,
exactement, chez
Perrin, c'était l'an dernier, une histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Alors je le disais en introduction à cette émission, mais 58 est beaucoup moins présent dans les commémorations aujourd'hui que mai 68. Pas totalement absent pour autant, on en parle un petit peu, la preuve dans cette émission. Est-ce que vous diriez les uns et les autres, déjà pour commencer la discussion, que ça reste un marqueur fort de notre histoire politique, Anne Levade?
Alors, de notre histoire politique, indiscutablement, de notre histoire, sans doute, parce que je suis juriste constitutionnel aussi, puisque c'est la fin d'un régime. Le 13 mai 58, je crois, est considéré comme étant le point de bascule de la 4e République qui n'arrive pas à faire face à la situation et qui, de toute façon, a été très chaotique. Et puis, même si la Constitution de 1958 ne verra le jour que plusieurs mois plus tard, en un temps d'ailleurs record, c'est quand même le point de départ d'un processus complètement inédit de réécriture d'une constitution qui se veut correctrice de tous les errements qu'on a connus par le passé. Donc c'est évidemment un moment essentiel de notre histoire.
Et constitution sous laquelle nous vivons toujours. Sabine Janssen.
Oui, je crois que 58 parachève en fait la construction de la libération. Ce que de Gaulle aurait voulu faire en 1945-46, qu'il n'a pas pu faire, il le réalise en 1958. Il y a en quelque sorte 12 ans d'attente, de suspension pour lui, et il va pouvoir profiter d'une crise politique exceptionnelle, la énième, qui se greffe sur la crise coloniale, pour effectivement revenir et imposer son modèle constitutionnel.
Est-ce que vous diriez d'ailleurs de ce point de vue que mai 58 signe davantage la fin de la 4e que le début de la 5e ou inversement?
Je dirais que...
Parce qu'on est dans un entre-deux un peu, même si c'est toujours la 4e République, mais il y a quand même une période qui va s'ouvrir avec les pleins pouvoirs qui vont être accordés à De Gaulle, où on ne sait plus très bien sous quelle République on est.
Même si... C'est vrai. Alors je dirais comme quelqu'un en même temps, c'est-à-dire que c'est effectivement la fin de la 4e et il était obligé de passer par la présidence du Conseil s'il voulait revenir légalement. Et donc il revient légalement au pouvoir, mais il se fait donner des pouvoirs nécessaires pour justement préparer cette constitution de la Ve République. Alors, c'est vrai, vous avez raison, cette période de transition elle est très, très intéressante parce que les gens l'ont oublié. Les gens ont oublié que De Gaulle avait été le dernier président du Conseil de cette quatrième qu'il avait tant décrié et, haï presque. Hein.
Êtes-vous d'accord, Gilles Richard, avec cette idée qu'on a oublié ce qu'était mai 58 ? Bah, vous voyez, je fais la confusion, mai 58. Et si oui, pour quelle raison d'ailleurs ?
Alors, je vais vous offrir une occasion de relier 58 à 68. Je pense que pour les gauches, 58 a une image extrêmement négative. D'ailleurs, 10 ans plus tard, le 13 mai 68, les manifestants dans la France entière scandent 10 ans, ça suffit. Et du côté des droites, on ne fête pas tellement cet événement du 13 mai parce que c'est un événement ambigu, hein, comme Christophe Nick l'a qualifié, de coup d'État démocratique, donc qui commence par un coup de force à Alger et qui finit 3 semaines plus tard par un vote parfaitement légal de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Donc un événement ambigu que les gaullistes ont eu tendance à occulter pour privilégier plutôt la date du 28 septembre 58, l'avènement de la Ve République avec l'adoption de la Constitution nouvelle.
Sabine Janssen, tout à l'heure, vous avez dit, comme dirait quelqu'un, je parle du en même temps. Alors c'est vrai que, allez, pour peut-être expédier cette question, enfin expédier en tout cas, il faut bien l'aborder aussi, parce que mai 58, c'est quand même une date dont on a reparlé l'an dernier au moment de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a eu un certain nombre d'éditorialistes qui faisaient un comparatif. Alors évidemment, il ne s'agissait pas de comparer deux périodes historiques qui en soient de manière la comparaison, hein, pour les historiens, on sait ce que ça vaut, mais il y avait quand même cette idée qu'il y avait certains éléments qu'on pouvait rapprocher, notamment le fait qu'on était face à un système politique à bout de souffle, avec des partis traditionnels un petit peu épuisés. Est-ce que ce parallèle-là vous paraît encore tenir, finalement, un an après, Anne Levade ?
Alors, c'est vrai que c'est une image qu'on a beaucoup utilisée parce que je crois que c'est une image avec laquelle Emmanuel Macron lui-même a beaucoup joué, c'est-à-dire l'idée que finalement il avait une conception de la Ve République et une conception d'exercice du pouvoir qui était peut-être plus conforme à celle du général de Gaulle, celle héritée de 1958, qu'à celle qui avait pu être pratiquée notamment par François Hollande pendant le quinquennat précédent. En revanche, la configuration politique, quand bien même elle serait à bout de souffle, n'a quand même absolument rien à voir. Parce que la 4e République, c'est d'abord une République des coalitions politiques, donc avec une démultiplication des formations politiques. Et le clivage droite-gauche est quand même un clivage très marqué, qui en fait va voler en éclats pendant la période, effectivement, de mai 58 à cause de la crise coloniale, mais qui va se reconstituer assez rapidement après. Et c'est vrai que l'épisode du gouvernement que met en place de Gaulle en 1958 est un épisode assez isolé d'une très grande coalition avec des adversaires qui sont essentiellement les communistes et une partie du Parti Socialiste. En revanche, je crois que la situation actuelle est quand même sensiblement différente parce qu'on a moins de partis politiques, parce qu'on vit depuis longtemps dans un système qui est très bipolaire sur le plan politique. Et c'est vrai qu'on voit monter en France comme ailleurs en Europe, des formations davantage, pour utiliser un terme un peu valise, anti-système, qui n'existaient pas véritablement à l'époque.
Jusqu'où est-ce que vous pousseriez cette comparaison entre 58 et, alors disons, 2017-2018, Gilles Richard ?
Oh, je ne la pousserai pas très loin. Les situations sont vraiment incomparables. Les plus anciens qui nous écoutent doivent se rappeler que on est à ce moment-là en pleine guerre d'Algérie, avec plus de 500 000 jeunes appelés qui font la guerre au-delà de la Méditerranée, des morts tous les jours par dizaines. La situation aujourd'hui n'est pas du tout du même type. Et puis, deuxième grande différence, c'est que la crise de 58 se termine par un changement de constitution, alors qu'il me semble plutôt qu'en 2017, le nouveau président Emmanuel Macron s'est plutôt fort bien intégré, fondu dans les institutions précisément votées en 58.
Même s'il a un projet de la réformer, cette constitution, sans doute pas avec l'ampleur évidemment qu'aura été ce bouleversement du passage de la 4e à la 5e République, puisque la question qu'on pose ce soir, Sabine Janssen, c'est que reste-t-il de mai 58 ? Est-ce que la première chose effectivement à dire, c'est peut-être d'abord des institutions et cette constitution de la 5e dont on célébrera les 60 ans fin septembre, début octobre. Je dis fin septembre parce que enfin début octobre c'est la date de la Promulgation, le 4 octobre, hein, ouais. Si ma mémoire est bonne.
C'est ça. Le 4 septembre, elle est officiellement proclamée place de la République par De Gaulle, et puis il y a le référendum qui a lieu fin septembre. Je voudrais peut-être revenir sur cette idée du parallèle. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, c'est très différent comme le dit Gilles Richard, mais ce qui me semble malgré tout similaire, c'est la crise de la représentation politique. Il y a une crise de la représentation politique, et il faut se souvenir qu'en 2016, les marcheurs ont fait du porte-à-porte, ont établi des questionnaires qui ont été abondamment épluchés par l'entourage d'Emmanuel Macron, et ce qui ressortit de ces questionnaires, c'était précisément qu'il y avait une crise du politique, que les gens ne croyaient plus au politique, et donc tout l'effort d'Emmanuel Macron a été au fond d'essayer de réendosser un peu les habits présidentiels que De Gaulle s'était fait tailler, qu'il avait, je dirais, en même temps, il avait un costume un peu naturel pour cet habit présidentiel, et donc réinvestir cette fonction-là, il l'a fait. Et il a vraiment ciblé sur cette question de l'image du pouvoir. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a pas mal réussi.
Est-ce que ça veut dire que cette image du pouvoir, elle perdure depuis une soixantaine d'années? C'est-à-dire la façon dont le général De Gaulle est arrivé, enfin, est revenu au pouvoir, c'est quelque chose qui a totalement structuré la vision qu'on pouvait avoir de la fonction présidentielle, malgré parfois les tentatives de changement. Je pense à François Hollande qui voulait être un président normal et puis qui a été rattrapé par la fonction Anne Levade.
Alors, pour réagir tout de suite à l'exemple que vous citez, François Hollande ne voulait pas être un président normal par rapport au général de Gaulle. C'était évidemment un argument de campagne par rapport à son prédécesseur immédiat, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Mais je crois qu'effectivement, la constitution de 1958 et cette période de 1958, elle est structurante pour deux raisons. D'abord parce que de Gaulle reste au pouvoir pendant 11 ans et que donc il façonne. Faut pas oublier que la 4ème République ne dure jamais que 12 ans. Donc les 11 premières années du général de Gaulle sont évidemment des années fondatrices pendant lesquelles il va utiliser, en restant, pour réagir à ce que disait Sabine Janssen, au-dessus des partis, il va utiliser tous les instruments qu'il a imaginé ou qu'il s'est fait imaginer pour que la France soit gouvernable. Et le deuxième élément qui, de mon point de vue, est déterminant, c'est que 11 ans plus tard, quand bien même De Gaulle s'en va dans des conditions en 1969 qui ne sont pas très glorieuses pour lui, parce qu'il y a un ras-le-bol à son égard, eh bien, il y a une chose que personne dans la classe politique ne veut abandonner, c'est justement cette stabilité du gouvernement. C'est-à-dire cette idée que pour la première fois de notre histoire constitutionnelle, on arrive à avoir des gouvernements qui durent, qui donc peuvent mener une politique, et qu'on arrive à avoir des gouvernements qui ont le soutien d'une majorité parlementaire. Alors ça a été très critiqué par ceux qui étaient dans l'opposition chaque fois qu'ils étaient dans l'opposition. À partir de 1981, comme il y a des alternances, cette critique est alternative, si j'ose dire. Mais le fait est que, de ce point de vue-là, ça reste un modèle assez unique. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi une des idées d'Emmanuel Macron et du gouvernement actuel que de faire référence en permanence à ses sources. J'ai vu que dans l'annonce de la réforme constitutionnelle, on parlait de retour aux sources, c'est-à-dire cette idée que quoi qu'il arrive, et même si on bouge cette constitution, eh bien, il ne faut pas mettre en péril ce qui est en quelque sorte son acquis fondamental.
Et on peut dire que cette constitution, elle a quand même beaucoup bougé en 60 ans, même si ça reste toujours la constitution de la 5ème République. Il y a eu un certain nombre de réformes. Que reste-t-il de mai 58? Que reste-t-il de cette constitution telle qu'elle avait été imaginée, en particulier, enfin, notamment par le général de Gaulle? Il n'était pas seul, évidemment, à participer à sa rédaction. Gilles Richard, alors, faisons un exercice un peu d'uchronie. Et si le général de Gaulle était encore vivant aujourd'hui, est-ce qu'il la reconnaîtrait, sa constitution de 1958?
Sans doute que oui, puisqu'il l'a réformé sur un point essentiel en 1962, avec l'élection du président au suffrage universel. Il ne reconnaîtrait peut-être pas les choses dans les personnalités, le mode de fonctionnement des présidents, qui n'ont pas le même style que lui. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en 1958, la Constitution est assez ambiguë. Hein. Elle est votée non seulement par les gaullistes, et Michel Debré qui pilote, mais aussi par l'autre grand parti de droite de l'époque, les indépendants et paysans, le parti de Pinay et de Coty, hein, qui impose une part de parlementarisme assez fort. Les articles 20 et 21 de la Constitution, je parle sous le contrôle de ma collègue juriste, rappellent bien que c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Et donc, il y a aussi une ambiguïté dans l'interprétation de la Constitution au départ. Et ce n'est que 4 ans plus tard, à l'issue de la guerre d'Algérie, que le général de Gaulle va trancher dans un sens, dans un sens plus favorable au pouvoir présidentiel, par la réforme portant sur l'élection au suffrage universel du président.
Anne Levade.
Et ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Il faut ajouter que c'est cette ambiguïté qui a permis aussi à la Constitution de durer. Parce que si, en 1986, au moment de la première cohabitation, il n'y avait pas eu justement ce qu'on appelle cette diarchie de l'exécutif, c'est-à-dire un président fort depuis l'élection au suffrage universel direct, mais en même temps un Premier ministre qui a un vrai pouvoir, eh bien on n'aurait jamais pu avoir un président de la République d'une couleur politique et un Premier ministre d'une autre. Il aurait fallu soit que l'un démissionne, soit peut-être réviser la Constitution pour rendre les choses possibles. C'est ce que certains appellent la souplesse ou la plasticité du texte de 1958.
Sabine Janssen, cette ambiguïté, elle est due à une hésitation du général de Gaulle, c'est-à-dire il ne sait pas exactement quel est le type de régime qu'il veut, ou bien est-ce que ce sont les conditions politiques qui lui interdisent de faire tout de suite la Constitution avec un volet présidentiel peut-être un petit peu plus affirmé, comme ça va apparaître avec la réforme de 62 et l'élection au suffrage universel du président de la République. Et donc, il faut attendre un peu d'habituer peut-être aussi ses alliés politiques à cette idée.
Ouais, ce sont effectivement les conditions politiques. Il faut bien se remettre dans les conditions précisément de l'époque. Il y a un problème urgent et qui fait courir un véritable danger même à l'unité de la nation. C'est la guerre d'Algérie, c'est la question algérienne. Donc, tout est subordonné à ça. Et du même coup, comme le soulignait Gilles Richard, lorsque De Gaulle devient président du Conseil de la 4e République, certes, il prépare la suite et il le fait de façon exceptionnelle sans assemblée constituante, mais il le fait quand même sur la base d'un compromis avec les parlementaires qui sont là, les parlementaires de la 4e République, qui d'ailleurs l'ont élu. Et donc au sein du comité consultatif constitutionnel, il y a des parlementaires, des vieux de la vieille. Et donc il va malgré tout opérer une sorte de compromis. Il sait qu'il n'a pas tout à fait le champ libre et il l'aura définitivement en 62, au moment où d'ailleurs certains considèrent que, comme Saint-Sinatus, on va pouvoir le renvoyer dans ses champs une fois qu'il aura réglé l'affaire algérienne.
Il n'a pas totalement le champ libre et en même temps il va avoir 6 mois, enfin on lui octroie 6 mois de plein pouvoir pour préparer le changement de régime. Donc quand on a les pleins pouvoirs, normalement on est censé faire ce qu'on veut.
Oui, mais en même temps, il ne va pas gouverner seul. Donc autour de lui, il y a une équipe, il y a déjà des gens qui depuis longtemps pensent, comme Michel Debré, parce qu'il ne faut pas non plus oublier le rôle fondamental de Michel Debré, qui, on le sait, était lui beaucoup plus favorable, là encore, je parle sous le contrôle de notre spécialiste, favorable à un régime de type parlementaire à l'anglaise. Et donc, au fond, et c'est vrai que cette plasticité de la Constitution, elle fait qu'elle dure encore, et elle a reposé sur ce compromis lié à un contexte politique et au fait que De Gaulle ne s'apprêtait à gouverner avec du personnel qui était là aussi depuis un certain temps, s'il a fait appel à un certain nombre de technocrates, comme Emmanuel Macron d'ailleurs.
Comment se fait-il, Anne Levade et Gilles Richard, je vous poserai exactement la même question, mais que justement cette culture du compromis qui a permis à la Constitution de 58 de naître n'est pas à ce point peut-être perduré dans la vie politique. On ne peut pas dire que la vie politique française soit marquée par cette culture du compromis.
Alors, moi, je pense d'abord que c'est pas, j'allais dire, dans la culture française de manière générale. C'est les circonstances qui, pour beaucoup, ont dicté cette exigence de compromis. Enfin, il faut rappeler qu'au moment où De Gaulle revient aux affaires, Coty fait cet acte de mettre sa présidence dans la balance au cas où les parlementaires refuseraient de l'investir. Donc, on est quand même dans un moment qui est d'une gravité extrême sur le plan institutionnel parce que, comme c'était rappelé par Gilles Richard, par ailleurs, on est au bord d'une guerre civile. Donc, on ne peut pas imaginer. Enfin, ça aurait été une très lourde responsabilité pour les parlementaires que de refuser cette offre de service, en quelque sorte, que fait De Gaulle et que Coty soutient.
La deuxième. Mendès France dira d'ailleurs qu'ils se sont couchés, les parlementaires.
Ah. Voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça déchaîne de véritables oppositions, mais je pense qu'il y a quand même une aspiration aussi à une pacification sociale et donc à un apaisement de la situation. La deuxième chose, c'est que c'est quand même aussi un compromis qui est quand même très clairement dirigé par un personnage qui n'est pas complètement banal. C'est-à-dire le général de Gaulle a aussi une autorité, une légitimité, l'image de l'homme providentiel qui fait que il y a ses opposants, j'allais dire historiques, qui d'ailleurs le resteront encore un certain temps par la suite. Mais malgré tout, il est difficile. En plus, il ne peut que dire qu'il avait eu raison. Il a été, c'était rappelé tout à l'heure, il a été le premier à dire que cette 4e République serait une catastrophe. Elle en est une. Et donc, c'est un peu difficile de lui dire qu'il n'a rien compris et qu'on va revenir aux anciennes formules.
Gilles Richard.
La culture du compromis est fondamentale dans l'histoire politique de la France sur la longue durée. Elle est au fondement de toute la 3e République et de la 4e République. Si compromis il y a en 1958, c'est tout simplement parce que Charles de Gaulle n'a pas de majorité. Quand il arrive au pouvoir en mai 58, il y a 20 députés gaullistes sur 600. Et à la fin de l'année, quand les élections législatives ont lieu, il a 200 députés sur 600. Donc il est obligé de compter avec les indépendants et paysans qui en ont 120. Il ne peut pas faire 100. Et c'est seulement à partir de 1962 que les gaullistes, enfin que se crée ce nouveau système partisan où il y a un parti dominant qu'on va retrouver presque tout le long de la 5e République, mais la culture du compromis, on la voit réapparaître dès qu'il y a situation de rapport de force ambigu, et notamment pendant les trois cohabitations.
Voilà. Il y a quand même une forte crainte qui peut s'exprimer au moment où il apparaît que le général de Gaulle va revenir au pouvoir. Hein, il se dit à plusieurs reprises prêt à assumer ses responsabilités. Il va le faire notamment lors d'une très fameuse conférence de presse. C'est le 19 mai 1958. Je pense que les uns et les autres, vous connaissez cet extrait par cœur.
Mesdames, messieurs, ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile comment ? Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur.
Alors, Sabine Janssen, vous qui venez de signer les sautes d'humour du général de Gaulle, là, forcément, on est dans le best-of. Hein.
Oui, absolument. D'ailleurs, je l'ai cité parce que c'est vrai que là, cette espèce de gouaille, ce faux emportement, et effectivement, en plus, il dit quelque chose de vrai, c'est qu'il n'aurait pas voulu d'un pouvoir séditieux. Et il veut, et là, c'est là qu'il va se révéler un redoutable tacticien durant tout ce mois de mai, il veut être appelé. Là, il fait une offre de service, et en même temps, il sait qu'il doit donner des garanties. Parce que on a peur, malgré tout, que justement, il soit le général qui, en fait, soit de mèche avec les généraux d'Algérie et qu'il mette éventuellement en cause les institutions républicaines. Là, il clairement, non seulement il fait son offre de service, mais il donne des garanties.
À ce moment-là, il y a vraiment des risques de guerre civile ?
Il y a une très forte tension. Il y a quand même les militaires ont quand même préparé une opération qui s'appelle Résurrection, qui doit être déclenchée le 27 mai pour précisément faire une, si je puis dire, une descente dans l'Hexagone. Et donc, on a peur, oui, très clairement, on a peur. On a l'impression que le pouvoir ne tient plus rien et qu'il n'y a plus d'autorité. Il ne faut pas non plus oublier que le président Coty, dès le 5 mai, en fait, est allé voir, enfin a pris contact, il n'est pas allé voir de Gaulle, mais il a pris contact avec de Gaulle pour savoir si éventuellement celui-ci serait susceptible d'apparaître comme de jouer le rôle de recours. Donc non, il y a la crainte, et quand vous discutez encore aujourd'hui avec des gens qui ont vécu cette période à gauche, ils sont persuadés, ils considèrent qu'il y a véritablement eu un putsch, en tout cas il y a eu menace de putsch.
Gilles Richard.
Alors, cette conférence de presse est extrêmement célèbre, mais quand on la coupe de son contexte, on lui donne une importance bien trop considérable. Parce que quand on lit les lettres qu'écrit le lendemain et le surlendemain à Charles de Gaulle, on voit qu'il est déçu. Sa conférence de presse n'a pas eu l'effet souhaité. Et au contraire, elle a plutôt renforcé les gauches, elle les a poussées à s'unir, ce qui va donner la manifestation du 28 mai. Et en fait, ce qui relance de Gaulle, c'est le fait qu'il est... Il est visité par Antoine Pinay, qui à l'époque est l'homme politique le plus populaire de France, plus que de Gaulle dans les sondages, qui vient le voir à Colombey-les-Deux-Églises pendant 2 heures. On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit, parce qu'il n'y avait pas de témoins. Pinay n'a pas écrit ses mémoires et de Gaulle s'est bien gardé de jamais dire le moindre mot des échanges avec Pinay. Mais Pinay, quand il revient à Paris, il explique qu'il a trouvé un homme de bonne composition et qu'il va pouvoir jouer un rôle positif face à l'armée. Une armée qui, cela dit, dès le 24 mai, prend le pouvoir dans la préfecture d'Ajaccio et la sous-préfecture de Bastia en Corse pour comme manœuvre de préparation du putsch prévu sur la capitale de Paris. Donc il y a une vraie inquiétude et cette conférence du 19 mai n'est pas du tout la clé du succès de Gaulle, malgré le trait d'humour très connu et qui fait toujours son effet 60 ans après. Les choses ne se jouent pas simplement sur les mots du général, même si dans les mémoires de guerre, dans les mémoires d'espoir qu'il a écrit, il explique que c'est sur lui tout seul qui revient. Non, il y a des forces qu'il soutient et il y a d'un côté les militaires et de l'autre la principale force parlementaire, si on met à part les communistes, la principale force parlementaire, les indépendants et paysans.
Et c'est d'ailleurs sans doute le sort qui est réservé à un certain nombre d'événements historiques et de paroles historiques qui ne sont peut-être pas aussi importantes au moment où elles ont lieu et puis qui finissent par s'imposer dans la mémoire collective. On ne sait jamais très bien d'ailleurs par quel processus. En tout cas, ce mois de mai, donc 58, il va être extrêmement important parce qu'il va permettre donc d'arriver à la 5e République, à ce moment de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Sauf que 10 ans après, il se passe quand même, bon, faut quand même en dire un mot, mai 68. Est-ce qu'on pourrait dire, alors je ne sais pas ce que vous allez en penser, Anne Levade par exemple, que mai 68 est déjà écrit un peu en filigrane dans mai 1958?
C'est compliqué parce que, encore une fois, le contexte n'a rien à voir, la situation n'a rien à voir. Je veux rappeler sur mai 58 aussi que, au-delà du général de Gaulle, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, on a une période de presque un mois sans gouvernement. C'est-à-dire que le 15 avril, le gouvernement est renversé par l'Assemblée, et puis on peine à trouver un successeur et on ne trouvera un remplaçant au premier président du Conseil qui a été contraint à la démission que le 9 mai. Ce qui, dans le contexte de 1958, est absolument aberrant. Et c'est d'ailleurs le jour où ce nouveau gouvernement Pimelin doit être investi, qu'en même temps le comité de salut public s'installe à Alger. En mai 68, on n'est plus du tout, évidemment, dans ce schéma-là. C'est-à-dire ces gouvernements qui sautent à répétition, cette instabilité interne, on ne la connaît pas. En revanche, il y a en France et dans le monde, une aspiration au changement. Et c'est vrai que on a une vision très souvent franco-française de mai 68, à juste titre, parce que mai 68 a ses spécificités. Il faut oublier qu'un peu partout dans le monde, il se passe des choses. Enfin, guerre du Vietnam aux États-Unis, il y a en même temps une circulation de l'information qui commence, et donc il y a aussi des aspirations, j'allais dire, sociales et sociétales qui sont très importantes. Et puis, les qualités de De Gaulle en 1958 deviennent, en plus il a pris 10 ans, sans doute ses défauts en 1968. C'est-à-dire que là où il était rassurant par, au-delà de ses traits d'humour, un peu de rigidité quand même. On se souvient là aussi de quelques moments où il explique le rôle des femmes, par exemple, à la maison. Il y a quelques conférences de presse assez mémorables comme ça, sur qui donne son avis pour choisir une voiture, etc. Ben, tout ça en 1968 ne passe plus parce qu'il y a une génération qui ne veut plus de ça.
Sabine Janssen.
Oui, on faisait le parallèle avec Emmanuel Macron. Il faut se rappeler que De Gaulle arrive, il a au pouvoir, il a 68 ans. Donc c'est déjà, un senior. Et évidemment, 10 ans après, c'est un vieillard. Et le parallèle qu'on peut faire, mais qui est un parallèle facile, c'est qu'il y a effectivement une période de vacances. C'est-à-dire que mai 68, c'est une crise étudiante, une crise sociale et une crise politique, avec la disparition pendant 24 heures de Gaulle et une sorte de vacances qui fait que un certain nombre de bonnes volontés se proposent, comme François Mitterrand, pour éventuellement ramasser le sceptre du monarque républicain.
Peut-être qu'il essaie aussi de rejouer un petit peu le même coup du recours, c'est-à-dire par son absence,
absolument,
attendre qu'on l'appelle à la rescousse pour rétablir l'ordre
sans
et
doute,
la sécurité.
Il a pensé que ça allait marcher une nouvelle fois. Mais c'est vrai que sinon, les contextes sont extrêmement différents. C'est bon, c'est vrai que le leitmotiv, c'est 10 ans, ça suffit. Et donc, il est clair que l'ensemble une bonne partie des Français en a assez. De Gaulle a rempli son rôle, il a rénové les institutions républicaines, il a inventé, c'est vrai, un nouveau modèle républicain qui a résisté finalement à l'alternance, au départ de Gaulle, à l'alternance. Et de ce fait-là, il a, si je puis dire, rempli sa fonction. Mais il n'est plus en mesure d'être vraiment en adéquation avec les demandes, en particulier sociétales, en France.
Oui, mais il est important justement ce leitmotiv que vous rappelez, 10 ans ça suffit, donc ça fait passer de 58 à 68. Gilles Richard, est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'il y a peut-être eu l'illusion que la paix civile étant revenue, il a fallu quand même attendre bien sûr la fin de la guerre d'Algérie, hein, c'est pas en 58 que tout est réglé, mais quand peut-être que voilà que le pays est stable, est pacifié et qu'on ne voit pas venir les événements de mai 68.
Alors, on ne les voit pas venir, ça dépend qui. Hein. Il y a des individus qui les ont vus venir. On sait par exemple que André Bergeron, qui était très proche de Georges Pompidou, avait prévenu 2 mois avant Georges Pompidou qu'un grand mouvement social était à craindre. Hein. Donc, on est aussi là dans de la reconstruction des faits. Je crois que la grande différence entre 58 et 68, c'est le contexte, hein, bien sûr. Quand on est historien, on est attentif au contexte. La guerre d'Algérie obnubile la société en 58. Hein. Et deuxième élément, on est en pleine guerre froide, les gauches sont profondément divisées. En 68, la situation est totalement différente, puisque l'union des gauches s'est reconstruite. Hein. Le PCF a poussé à l'union des gauches, a poussé François Mitterrand en 65. Il y a un pacte d'unité d'action entre la CFDT et la CGT. Il y a une union des deux grandes forces de gauche aux législatives de 67, qui ont mis le pouvoir gaulliste en péril. Les gaullistes n'ont que 2 voix de majorité à l'Assemblée. On est donc et on est bien sûr en paix. Voilà. Donc on est dans 2 contextes complètement différents qui font qu'il est tout de même difficile de comparer les 2 moments. Certes, De Gaulle rejoue la carte du héros sauveur. Elle fonctionne sur le moment, hein, le 30 mai, mais on sait qu'en fait elle ne fonctionne pas à plus long terme, puisque 11 mois plus tard, il perd le référendum, et que finalement le slogan « 10 ans ça suffit » s'est révélé vrai, il n'a jamais fini sa 11e année de présidence.
Alors sur la comparaison entre 58 et 68, enfin non pas, sur la comparaison par rapport aux événements, mais sur la façon dont on commémore, ou dont on commémore moins ces événements. J'évoquais en début d'émission les propos de l'historien Benjamin Stora. Alors lui, il en parlait il y a 10 ans, c'était dans Mediapart. Je vous redis sa phrase. On peut comprendre l'éclipse de mai 58 par le fait que la France, emportée dans les années 60 par la fièvre de consommation, a préféré oublier les drames de la décolonisation et a souhaité célébrer l'aspect festif de mai 68. Sandrine Janssen, est-ce qu'on peut expliquer par le fait que la guerre d'Algérie, la décolonisation, ce sont des événements qui n'ont pas, toujours pas peut-être, été totalement digérés par la société française et qui expliqueraient aussi en partie le fait qu'on ne commémore pas ce moment-là, qui était loin d'être un moment festif, hein, contrairement à mai 68 où il y a eu des drames, mais c'était aussi quelque chose de beaucoup plus festif, évidemment.
Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais quand même relativiser la question des commémorations, parce que c'est vrai que cette année, on commémore beaucoup mai 68.
On commémore tout, hein, faut dire.
On commémore tout, c'est vrai, peut-être plus qu'avant. Mais je me souviens, en 1998, je travaillais pour une chaîne de télévision, et on avait fait venir Jacques Le Goff, et il nous avait dit, mais personne, on ne commémorait pas mai 68 en 1998. Donc, il y a des périodes où on commémore et d'autres où on commémore moins. Là, le fait que Emmanuel Macron, lui, ait choisi de ne pas commémorer mai 68, il aurait pu commémorer. Il n'a pas commémoré mai 68. Il va commémorer 58. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il a vraiment pris clairement un parti qui est de revenir sur les fondations de la Ve République.
Mais il va commémorer la Constitution. Il ne va pas commémorer mai 58, qui est lié à la guerre d'Algérie.
Exactement. Alors, c'est vrai.
C'est aussi peut-être le signe que c'est toujours très compliqué.
Alors, ça reste compliqué, si vous voulez. Ça reste compliqué, c'est vrai. Ou alors, au contraire, c'est très très loin pour beaucoup de nos contemporains. C'est-à-dire que mai 58, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est une autre période, c'est une période de guerre froide, c'est une période de problèmes coloniaux dont finalement on est quand même malgré tout sorti. Hein. Et puis c'est vrai que pour ceux qui seraient susceptibles de s'y intéresser, c'est de l'histoire qui reste très chaude. On sait que les relations avec l'Algérie, ça reste très compliqué. Et on sait qu'il y a encore des pieds noirs, hein, que ça représente encore un électorat qui n'est pas négligeable, même si il y en a de moins en moins. Et du même coup, cet électorat-là, il a, si je puis dire, il y a des mémoires divergentes qui s'expriment et qui vont peut-être rendre compliquées aussi les commémorations.
Oui, puis il réagit, par exemple, quand Emmanuel Macron était encore candidat en Algérie, lorsqu'il parle des crimes contre l'humanité pour parler de la colonisation. Ça a créé une polémique. Auparavant, François Hollande, en annonçant la date du 19 mars 62 comme date officielle de commémoration en hommage aux victimes du conflit, toutes les victimes, là aussi, les anciens combattants avaient eu du mal à accepter ça. Donc il y a aussi quand même ce traumatisme-là qui n'est pas totalement... totalement intégré, totalement digéré, Anne Levade.
La sensibilité de cette question, elle est absolument indéniable et effectivement, il y a des mémoires divergentes et parfois aussi d'ailleurs chez les enfants, parce qu'ils ont été bercés par ces histoires. Pour autant, moi, je ne suis pas. J'entends bien ce que dit Benjamin Stora. Je ne suis pas absolument convaincue que mai 58 ce soit la période de la décolonisation en tant que telle. C'est-à-dire, pour moi, la période commence avant et s'achève beaucoup plus tard. La fin de la guerre d'Algérie, c'est beaucoup plus tard. Et j'aurais tendance à dire, de manière peut-être moins grandiloquente, que si on commémore pas mai 58, mais plutôt octobre 58 avec la Constitution, c'est parce qu'on commémore plus volontiers les débuts que les fins. Et que finalement, mai 58, c'est une période tellement, comment dire, complexe, avec des événements contradictoires, avec des journées où se passe une chose et son contraire. Ce que je disais tout à l'heure, Flimelin d'un côté qui est investi et puis de l'autre le comité de salut public à Alger. Finalement, on s'y perd un petit peu, alors que effectivement, alors on commémore, c'était très bien dit tout à l'heure, beaucoup en ce moment et notamment sans doute les 60 ans de la Constitution. Je pense que si Emmanuel Macron y attache un prix particulier, c'est aussi parce qu'il a en ligne de mire sa propre révision constitutionnelle et que donc, malgré tout, montrer que tout cela se fait dans une volonté de pérenniser le régime actuel est un peu stratégique sur un plan politique. En soi, commémorer mai 58, ne pas commémorer mai 58 ne me semble pas véritablement une surprise, pour tout dire.
Gilles Richard, mai 58, ça n'est qu'une date parmi d'autres dans le processus de décolonisation ?
Une date parmi d'autres, mais une date fondamentale, qui crée en fait un traumatisme qui n'est toujours pas résolu. Parce que De Gaulle revient au pouvoir porté par les partisans du maintien de l'Algérie dans la France. Et que ce soit les militaires, que ce soit les pieds noirs qui prennent d'assaut le gouvernement général, que ce soit pour l'essentiel la direction des indépendants et paysans qu'il soutient sur la même base. Or, il se trouve que moins d'un an après, De Gaulle, analyse de la situation qu'il fait, par pragmatisme, décide de mener une autre politique. Et donc une rupture profonde s'instaure au sein du camp gaulliste. Il y a une division, à droite, il y a une partie des soutiens de De Gaulle de 58 qui l'abandonnent et qui n'ont pas oublié encore. Et c'est, par exemple, c'est la tradition incarnée encore aujourd'hui par le très vieux Jean-Marie Le Pen.
Oui, parce que j'allais vous poser la question, en quoi justement ces fractures de 58, liées notamment à la guerre d'Algérie, sont encore structurantes pour la droite, ou pour les droites plutôt, peut-être françaises, puisque vous avez écrit leur histoire, Gilles Richard.
Elles sont structurantes en cela qu'elles incarnent un moment très important, un moment dramatique pour les nationalistes. Elles incarnent la guerre d'Algérie, la défaite en Algérie, la décolonisation incarne aux yeux des nationalistes un affaiblissement dramatique de la France, la fin d'une période de 5 siècles où la France était une des principales puissances mondiales. Voilà. Et ça, ce traumatisme n'est pas refermé aujourd'hui. Voilà, pour les nationalistes. Et c'est un point de divergence absolument insurmontable entre nationalistes et libéraux aujourd'hui au pouvoir.
Ça fait partie.
Quant à 68, je ne suis pas sûr que ce soit si festif que ça.
Non, pas seulement en tout cas, bien sûr. Mais en tout cas, ça l'était peut-être davantage davantage voilà. que mai 58. Ça n'était pas que ça, bien sûr. Hein, voilà.
Quand même, en 68, hein, 7 morts, plus de 8000 blessés, dont des dizaines de personnes amputées. L'événement a été violent. Hein, violent.
Absolument. Merci en tout cas pour ces précisions. Et merci surtout pour cette discussion à tous les trois. Anne Levade, Sabine Janssen et Gilles Richard. Merci également à nos camarades de France Bleu Touraine à Tours qui vous accueillaient. Je rappelle, hein, les sautes d'humour du général de Gaulle, c'est chez Payot. C'est signé par Sabine Janssen et Gilles Richard. Histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Chez Perrin, Anne Levade, j'imagine que vous aurez beaucoup de choses à faire pour les 60 ans de la Ve République, puisque vous présidez l'Association française de droit constitutionnel. Merci à l'équipe du Grand, Marine Beccarelli, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Ulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Élise Leu.